retrouve-moi rue des étoiles, la deuxième après Jupiter. Je connais un endroit pas mal d'où on peut voir tout l'univers. Retrouve-moi rue des étoiles.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le Balcon des Étoiles, les nouvelles du ciel en compagnie de Jacques Sanchez, le président de l'association des Pléiades à La Trappe. Jacques, bonjour.
Bonjour.
Au programme de cette émission, on va commencer par parler de cette activité qui s'est déroulée début octobre, le jour et la nuit.
Oui, c'est le jour de la nuit. C'est vrai que depuis 2009, au niveau national, une association, l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne, a initié en fait cet événement qui s'appelle le jour de la nuit. Donc là, c'était en l'occurrence le 7 et le 8 octobre, donc, où les villes et les villages qui voulaient s'impliquer dedans donc, devaient organiser une balade nocturne pour sensibiliser en fait le public, jeune, moins jeune, les familiales, à le familiariser donc à la protection de notre ciel nocturne.
Cette balade nocturne de début octobre a réuni du monde.
Oui, oui. Alors là, il y a eu du monde parce qu'en fait, avec la commune de Rieux et la commune de Montesquieu, donc c'était associé pour créer cet événement. Donc entre les deux villages, sur les coteaux du Volvestre, une vue magnifique d'ailleurs sur la région, sur les Pyrénées. Alors, mais bon, malheureusement, le ciel est resté couvert, mais quand même, nous avons pu sensibiliser les personnes, de les sensibiliser à ce jour de la nuit, à cette opération donc de protection du ciel, effectivement par la consommation raisonnable de l'électricité, voilà, de la lumière publique et de l'environnement, parce qu'en fait, on protège l'environnement, non seulement le ciel étoilé, mais aussi la faune et la flore donc de nocturne.
C'est ça qu'on appelle la pollution lumineuse. Qu'est-ce que c'est?
Alors la pollution lumineuse, c'est une pollution, si vous voulez, qui a été créée par l'homme il y a environ 50 ans. Depuis 4,5 milliards d'années, notre Terre est réglée par l'alternance du jour et de la nuit. Bon, quoi qu'on y fasse, c'est comme ça. En 50 ans, on va dire que l'homme, effectivement, a bouleversé ce rythme naturel en créant, en fait, pour embellir, pour protéger aussi en sécurité, une nouvelle pollution, la pollution lumineuse, en suréclairant, on va dire, des lieux publics, en suréclairant des rues, en suréclairant des monuments, en suréclairant des places, en suréclairant des endroits, en fait, qui n'étaient peut-être pas forcément obligatoirement, qui ne devaient pas être obligatoirement éclairés, quoi.
Quelles sont les conséquences de ce suréclairage ?
Alors, au niveau faune, ça provoque des dégâts considérables. Si vous éclairez, par exemple, un arbre, une haie ou quoi que ce soit qui est éclairé, ben, vous verrez, il n'y aura plus un animal, plus un oiseau dedans qui va nicher pour passer la nuit. Il n'y a plus rien, quoi. Ça peut éblouir. En ville, on est plus souvent ébloui par les lumières artificielles que par le reste. Moi, ça m'est arrivé souvent, en fait, de quitter un parking super éclairé dans une ville ou un village et de ne pas mettre ma lumière. Donc, en fait, c'est même à la limite, c'est dangereux, quoi, parce que je m'aperçois, effectivement, après, au bout de quelques centaines de mètres, on va dire, avec des appels de phare que l'on me fait, que l'on n'avait pas mis ses propres lumières, parce qu'on n'en a pas besoin. C'est tellement éclairé qu'en fait, on a l'impression de rouler en plein jour, et donc en fait ça ne joue pas sur la sécurité, parce que plus les routes et les rocades, on va dire, sont éclairées, et plus les gens vont rouler vite. Forcément, si on restreint la lumière et si on crée, on va dire, un peu de réflexion ou d'attention au conducteur, eh bien on va forcément contribuer aussi à la sécurité routière, hein. C'est pas suréclairé qui va ramener forcément de la sécurité dans nos routes, hein. C'est l'inverse, en fait.
Non, mais c'est peut-être plus sûr pour les piétons.
Alors, les piétons, bien sûr. Oui. Il y a les piétons. Il y a aussi les zones qui nécessitent effectivement un éclairage pour des raisons de sécurité. Là, on n'en est pas à l'extinction totale. Mais disons qu'il faut effectivement réfléchir et éclairer les endroits importants et qui le nécessitent vraiment, mais ne pas éclairer en fait des zones qui ne devraient pas l'être.
Les zones commerciales, la nuit par exemple.
Les zones commerciales, voilà, c'est dans des endroits privés. Et quand on agit chez les privés, c'est vrai que bon, c'est un peu plus compliqué, quoi. Pour l'instant, c'est vrai que l'Association nationale de protection du ciel et de l'environnement nocturne a un large panel, mais les domaines publics, la voie publique, sont effectivement sont des cibles privilégiées puisqu'on peut discuter quand même et essayer de se faire entendre au niveau public. Au niveau privé, ça paraît un peu plus compliqué puisqu'effectivement, il y a les enjeux commerciaux, voilà.
Ainsi, il existe des associations pour la diminution des éclairages et la protection de la nuit.
Voilà, bien sûr, oui, il y a des correspondants, donc dans chaque département, il y a un représentant. Voilà, moi, je peux représenter cette association, puisque je crois qu'il n'y a pas trop de représentants pour l'instant en Haute-Garonne. Je peux faire transmettre des messages ou des mots à passer, quoi, à l'association nationale, à des personnes qui s'intéressent à ça depuis très longtemps. Alors, je parlais donc, bien sûr, de la pollution, ce qu'elle engendre au niveau de la vie quotidienne de l'individu. Forcément, les astronomes, ce sont les premiers qui ont alerté sur ce phénomène-là, parce que quand on voit depuis nos villes, d'un village, les coteaux du Volvestre sont relativement protégés encore, parce que des extinctions sont prévues ou vont l'être, où l'éclairage donc doit se modérer de plus en plus pour que l'on reste toujours en contact, on va dire, avec les étoiles, la Voie lactée, qui, on va dire, depuis la nuit des temps, sont au-dessus de nos têtes. Donc on n'a aucune raison de les effacer, quoi. C'est comme tout, c'est comme la disparition de la biodiversité, ce serait catastrophique.
C'est parce que cela gêne bien sûr la bonne visibilité des astres dans le ciel.
Exactement.
À ce propos, que peut-on voir dans le ciel en cet automne ?
Alors, en ce moment, c'est vrai que la nuit tombe plus tôt, donc nous l'avons constaté déjà depuis quelque temps. Hein, au mois d'août, le soleil donc, se couche de plus en plus tôt et se lève de plus en plus tard, donc pour nous, c'est mieux. Il fait nuit aux alentours de 20h, à peu près, 19h30-20h. Et à partir de ce moment-là, eh bien, on peut voir déjà des choses dans le ciel, pour peu que l'on soit situé sur un endroit, on va dire donc assez éloigné des lumières des villes, et un peu surélevé. Donc on verra, à l'endroit où vient de se coucher le soleil, si vous vous tournez vers le sud, face aux Pyrénées, le soleil vient de se coucher sur votre droite, c'est l'ouest, la direction de l'ouest. Légèrement devant, dans cette direction, un petit peu plus donc vers les Pyrénées, vous verrez la planète Vénus qui brille de mille feux, puisque c'est l'objet le plus lumineux du ciel, que l'on appelle d'une manière plus populaire l'étoile du berger, qui a toujours été dans les mythes, on va dire, le corps céleste, la planète en fait, qui est la plus lumineuse du ciel, donc, parce qu'elle renvoie énormément de lumière solaire.
Pour voir Vénus, on se tourne vers les Pyrénées et on regarde très légèrement vers l'ouest, c'est ça ?
C'est ça, et vous avez donc au-dessus, là, vous avez la planète Vénus, la deuxième planète du système solaire. Elle a la même taille que la Terre, et c'est son atmosphère qui est quand même très dense, qui nous reflète en fait toute cette lumière. De l'autre côté du ciel, plutôt vers le sud, donc pile face au sud, c'est-à-dire de Rieux, vous regardez pratiquement vers le Mont-Valier, quoi, hein. C'est la direction du sud. Vous avez les deux planètes géantes du système solaire, Saturne, qui est un petit peu jaunâtre, et à sa gauche, Jupiter, qui brille presque autant que Vénus. Donc ces deux planètes-là sont les plus grosses planètes du système solaire. Ce sont des planètes gazeuses. Il nous faudra, par exemple, une lunette ou un télescope, effectivement, pour voir les anneaux de Saturne, qu'il faut au moins avoir vu une fois dans sa vie, et les satellites de Jupiter qui nous mettent en mémoire ce qu'a pu observer Galilée en 1610 quand il a découvert les satellites de Jupiter en pointant donc dans sa direction la lunette de sa fabrication. Alors, on peut faire la différence entre l'observation des planètes et les étoiles qui brillent effectivement par milliers au-dessus de nous en constatant que les planètes ne scintillent pas, alors que les étoiles, elles, qui sont à côté, vont scintiller.
À quoi est due cette différence ?
Alors ça, c'est l'atmosphère. C'est notre atmosphère qui... L'étoile est un point lumineux qui est très loin. Et quand ce point lumineux traverse notre atmosphère, en fait, il subit des perturbations de la diffraction. Et c'est cette diffraction qui fait qu'en fait, de la lumière arrive, n'arrive pas. Ça provoque donc, si vous voulez, un scintillement naturel. Alors que les planètes... Même si mes yeux n'arrivent pas à les apercevoir comme il faut, on va dire, ce sont quand même des cercles, des sphères, bien sûr, qui sont éclairées par notre Soleil, comme la Terre. Et ce cercle envoie énormément de points lumineux. Donc, c'est le nombre de points lumineux qui fait qu'en fait, cette lumière sera stable. Et même en traversant l'atmosphère, ils seront beaucoup moins altérés que le point lumineux d'une étoile.
Ces trois planètes, on peut les voir jusque quand ?
Alors, on les verra pour nous jusqu'à pratiquement la fin de l'année. Donc, elles se déplacent, c'est ce qu'avaient repéré déjà les anciens. Hein. Les planètes, donc, se déplacent d'étoile en étoile et de constellation en constellation. Mais bon, elles se déplacent d'une constellation, on va dire, par an, Jupiter. Saturne, une demi-constellation, puisqu'elle est beaucoup plus loin.
Ça, c'est une observation qu'on peut faire une fois la nuit tombée. Mais il existe une autre observation originale qui peut être faite au soleil couchant.
C'est ça. Avec Michel Boutet, notre mathématicien, donc, qui aime bien les calculs astronomiques, parce que l'astronomie, forcément, c'est toujours lié aux calculs, à la physique et choses comme ça. Donc, Michel nous calcule les couchers de soleil vus de notre région, où l'on voit l'observatoire du Pic du Midi en avant-plan, en silhouette, si vous voulez. Donc, on y voit l'antenne, déjà, TDF, celle qui est au sommet du Pic du Midi. On y voit les coupoles qui sont à côté, la coupole du télescope de 2 mètres et puis les autres coupoles. En fait, on voit l'ensemble de l'observatoire en fond, en silhouette noire, à l'avant-plan, en fait, du soleil couchant. Alors, ce phénomène-là, on a constaté que depuis notre région, eh bien, on pouvait l'observer du mois d'octobre, ça commence, jusqu'au mois de février 2022. Donc c'est intéressant. En plus, bon, c'est une observation qui mérite d'être faite, puisque bon, on est 2 jours, c'est l'heure idéale pour aller se promener, pour voir un coucher de soleil, et il n'y a pas que les couchers de soleil sur la mer, on va dire, qui soient superbes, hein, magnifiques. Et on a de très beaux couchers du soleil, nous, sur les Pyrénées, qui sont très jolis.
Et dans le temps, le soleil se déplace, il ne se couche pas toujours exactement au même endroit. Alors, où dois-je me mettre pour voir l'antenne du Pic du Midi ?
Alors ça, c'est ce qui est un peu plus compliqué, c'est pour ça que nous avons fait appel à notre mathématicien Michel, donc il nous calcule. Alors ça commence, disons, au Carlabail, donc c'est à quelques kilomètres près, hein. À 1 kilomètre près, on le voit à côté, selon l'endroit. Alors sur notre site internet sera marqué d'ici là tous les points avec les coordonnées GPS, en fait, de l'endroit où il faut se placer pour voir le phénomène. Donc, ça commence au Carlabail et ça finira vers Pêche David au mois de décembre, donc le jour du solstice d'hiver, le 21 décembre. Et le soleil refera sa course dans l'autre sens à partir du 21 décembre et finira vers le Carlabail le mois de février.
Il faut donc suivre la course du soleil dans le ciel pour continuer à apercevoir l'observatoire du Pic du Midi.
Ah ben c'est ce qu'il faut faire, c'est la route des soleils couchants, il faut partir du Carlabail et après remonter à Rieux, ce sera à Montesquieu, ce sera donc vers novembre, on va dire, après deux jours après c'est sur Rieux, après on se décale et on remonte vers Montaut, Montgazin, Muret, Et après, on se retrouve effectivement, en passant par Sainte-Gabel. Et après, on se retrouvera dans des endroits où peut-être la vallée de la Garonne, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pour ça que je parlais de Pêche David, parce qu'en fait, comme c'est assez élevé, donc des fois, il vaut mieux se déplacer plus loin. Et c'est même visible depuis Revel. Donc, il y a la ligne qui, à un moment donné, à Revel, on voit exactement la même chose.
On peut regarder ça à l'œil nu ou il faut un appareillage ?
Alors, il faut faire attention, c'est vrai. Vous avez raison de mentionner cet événement. Nous, on parle de ça parce qu'on est quand même équipé avec des filtres. Donc, on peut, on va dire, observer le soleil dans la dernière minute de son coucher. Si on a des nuages qui viennent devant, c'est mieux. Ça va nous servir de filtre. Si on a des lunettes assez fortes de soleil, on va dire, c'est encore mieux de les mettre. Il ne faut surtout pas, effectivement, observer le soleil avec des jumelles ou avec un télescope, même au coucher, quoi, hein. Ça peut être très dangereux. Donc, effectivement, l'observation, on va dire, de ce phénomène-là, il faut vraiment l'observer. À travers un appareil photo, je pense que c'est bien. Parce que l'appareil photo, déjà, il diminuera la luminosité, les dernières lueurs du soleil. Il ne faut pas observer le soleil plutôt qu'une minute avant le coucher, quoi. Ça peut être quand même dangereux. Donc, on voit un coucher de soleil. S'il y a une brume, c'est vrai que ça va être vraiment sécurisant et pour nos yeux. Il faut faire très attention, bien sûr, à ça, hein.
Jacques, en ce mois de novembre, quelle est l'actualité du Balcon des Étoiles ?
Alors, nous, très prochainement, nous avons donc des stages qui sont proposés. Donc, pendant les vacances de Toussaint, ce sont des stages pratiques d'astronomie qui sont orientés donc, pour ceux qui souhaitent acheter un instrument, un télescope, une lunette. Donc, nous leur donnons des clés, si vous voulez, pour pouvoir les utiliser assez facilement. Donc, ce sont des stages à la journée, de 10h à 24h, et dont vous avez toutes les informations. Donc ça, c'est pendant le premier week-end des vacances de Toussaint. Et je vous ai parlé des planètes tout à l'heure en début d'émission, de Vénus, de Saturne et de Jupiter, mais il y a aussi des planètes qui ne sont pas visibles à l'œil nu, mais que l'on peut voir dans un télescope, c'est Neptune et Uranus, qui sont donc des planètes beaucoup plus éloignées et qu'on pourra vous montrer effectivement avec nos télescopes.
Jacques Sanchez, merci.
Merci à vous.
Et rendez-vous dans un mois pour une prochaine émission sur Radio Galaxie, les nouvelles du ciel.
Avec plaisir, merci.
Au revoir.
Au revoir.
Un soir sur le bord du chemin, il y avait une étoile, je l'ai ramassée. Elle m'a souri au creux des mains, comme si c'était normal, je crois qu'elle m'attendait.